Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Qu'est-ce que j'ai dit à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va avoir des règles et les voilà.
Il faut que nous ayons un cloud souverain.
La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise.
Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution? Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré.
Signaux faibles, le podcast de Siècle Digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Signaux Faibles, nous sommes le jeudi 21 mars 2024. Quatre actualités au programme aujourd'hui. A commencer par Neuralink, qui a dévoilé une vidéo du premier patient utilisant son implant cérébral. Quel est le potentiel de cette technologie? Une coalition ensuite, Meta, Microsoft, X et Match Group rejoignent Epic Games dans son combat contre l'App Store d'Apple. Nous verrons aussi qu'en France, le marché du jeu vidéo a atteint un nouveau sommet après des années d'instabilité. Dernière actualité, Stellantis investit dans une start-up pour créer des voitures autonomes abordables. Voilà pour ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est parti tout de suite, bonne écoute. Neuralink, la société d'implants cérébraux d'Elon Musk, a dévoilé une vidéo de son premier patient. Une séquence d'un peu moins de 10 minutes, où le patient est accompagné d'un ingénieur. L'homme se nomme Noland Arbog, et il est tétraplégique. Il a reçu un implant cérébral de la start-up. Une puce qui lui permet de connecter son cerveau à une plateforme, un logiciel. Le but, contrôler à distance des éléments virtuels, comme la souris de l'ordinateur par exemple, par la pensée. La vidéo le montre en train de jouer aux échecs, l'une de ses passions. Il y affirme aussi avoir réussi à jouer au jeu Civilization 6 pendant 8 heures. Il a tenu à relativiser en affirmant, je le cite, « Je ne veux pas que les gens pensent que c'est la fin du processus. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais cela a déjà changé ma vie. » Et donc, dans la vidéo, on le voit jouer aux échecs sur ordinateur, par la pensée. Toujours selon le patient, la chirurgie s'est bien passée et a été très simple. Il aurait quitté l'hôpital un jour seulement après l'opération, sans effet secondaire particulier. La puce implantée est plus fine qu'un cheveu humain avec ses 23 mm de largeur et 8 d'épaisseur. Elle dispose de 64 microcâbles et 1024 nanoélectrodes. Un dispositif qui lui permet de détecter les signaux électriques du cerveau et de les transmettre à un logiciel qui les traduit ensuite en action, en mouvement. Imaginez, vous pensez dans votre tête bas ou en bas. La puce va récupérer le signal correspondant émis par votre cerveau. Elle le transmet au logiciel, ce dernier le transforme en action et là, le curseur bouge vers le bas. Dans la vidéo, on voit bien que la puce est plutôt performante, mais des problèmes ont été évoqués sans plus de précision. Le potentiel de cette technologie est immense et cette séquence en donne un aperçu. Ça pourrait permettre à des personnes paralysées de remarcher par exemple. Voilà pourquoi c'est un secteur dynamique, avec d'autres sociétés que Neuralink, certaines étant même plus avancées. L'an dernier par exemple, un patient paralysé a réussi à marcher de nouveau grâce à un implant cérébral développé à l'université de Lausanne en Suisse. D'autres comme Precision Neuroscience ou Synchrone proposent des types d'implants différents de ceux de Neuralink, mais avec des buts similaires. Des composants qui sont appelés des BCI pour interface cerveau-machine. Meta, Microsoft, X et Match Group s'attaquent aux pratiques d'Apple au sein de l'App Store, comme Epic Games avant eux. Selon ces géants, Apple ne respecte pas une décision de justice la forçant à modifier la politique de l'App Store. Ils ont déposé un recours conjoint le mercredi 20 mars. Au fond, ils accusent Apple de la même chose qu'Epic, qui a demandé à un juge que la marque à la pomme soit sanctionnée pour ne pas avoir respecté un jugement. Alors là, pour tout comprendre, remontons le temps. Nous sommes en 2020. Epic Games a porté plainte contre Apple et contre sa politique tarifaire au sein de l'App Store. Dans le procès qui a suivi, la firme de Cupertino a été reconnue coupable d'avoir enfreint la loi californienne sur la concurrence. Elle empêche les développeurs de communiquer sur des systèmes de paiement alternatifs en dehors de l'App Store, des systèmes moins chers. Apple a donc été forcé d'autoriser les développeurs à intégrer des liens menant vers d'autres moyens de paiement. La société l'a fait, mais selon les entreprises qui l'attaquent aujourd'hui, elle enfreint quand même la loi. Apple prélève toujours une commission allant de 12 à 27% sur les achats réalisés en dehors de son App Store et empêche les développeurs de mettre en avant des promotions. Le Big Tech affirme de son côté s'être conformé à la décision de justice, mais la situation va se corser pour Apple. D'autant plus qu'en Europe, le Digital Markets Act l'oblige à ouvrir son système à la concurrence. Apple s'est exécuté, mais en imposant de nouvelles restrictions aux développeurs, ce qui ne va pas plaire à la commission. Bref, la marque est attaquée de toutes parts. Et les changements imposés en Europe par le DMA risquent d'inspirer d'autres pays. À tout ça s'ajoute le ministère de la Justice américain qui va poursuivre Apple pour pratiques anticoncurrentielles. L'entreprise empêcherait ses concurrents d'accéder aux fonctionnalités matérielles et logicielles de son iPhone. Comment va le monde du jeu vidéo ? En France, il va plutôt bien. Pour la première fois, ce secteur a augmenté de 10% pour atteindre plus de 6 milliards d'euros dans l'Hexagone en 2023, selon le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. James Ribourz, président du CEL, a estimé, je le cite, qu'en 2023, il y a eu une symbiose de plusieurs éléments positifs et un vrai alignement des planètes. Avec la pandémie et les confinements, le marché a connu un boom incroyable. Mais après la crise sanitaire est arrivée une crise économique, avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la baisse des investissements. Sans oublier qu'il y a aussi eu des pénuries de consoles. Une instabilité qui a entraîné plusieurs vagues de licenciements. Mais ça va mieux. Par rapport à 2022, la partie console a connu une augmentation de 24%. Ce n'était plus arrivé depuis 16 ans. Forcément, quand plus de consoles sont achetées, eh bien il y a aussi plus de jeux qui sont vendus. Logique. La branche jeux a donc grimpé de 7%. D'ailleurs, en 2023, beaucoup de jeux très attendus sont sortis. Il y a donc eu plus d'achats de nouveaux jeux et moins d'achats de contenus additionnels. Pour ce qui est du mobile, après des années de stagnation, ce segment est reparti de l'avant, avec 5% de croissance pour 1,48 milliard d'euros. Enfin, la partie PC, elle, est en baisse de 8,5% sur un an. Le hardware, lui, a chuté de 22%. Des baisses qui s'expliquent surtout par le fait que les joueurs ont beaucoup acheté de matériel pendant la pandémie. Maintenant, ils sont équipés. Et au niveau mondial, selon le spécialiste Newzoo, le chiffre d'affaires de l'industrie a atteint les 184 milliards de dollars, soit plus 0,6% sur un an. Après, ces chiffres et la vigueur du marché en France ne signifient pas que tout va bien. Les licenciements, par exemple, ils continuent. Selon Game Industry Layoff, il y a eu 8000 licenciements durant le premier trimestre 2024. Sur tout 2023, il y en avait eu 10 500, et ça inquiétait déjà beaucoup. D'autant plus que géants comme petits studios sont concernés. On ne peut donc pas encore dire que 2024 sera une bonne année. Stellantis veut vendre des voitures autonomes, mais pas à n'importe quel prix. Le groupe veut que ces dernières soient abordables. Un vrai défi, peut-être le plus gros concernant ce type de véhicule. Parce qu'une voiture autonome, pour repérer des obstacles, utilise ce qu'on appelle des capteurs, des lidars. C'est comme des radars, mais qui utilisent la technologie laser. Les lidars utilisés dans ces voitures sont parmi les meilleurs. Par conséquent, ils coûtent extrêmement cher. Alors, quand on sait qu'il en faut au moins 6 dans une voiture pour qu'elle soit à peu près autonome, vous l'avez sans doute remarqué, mais ce genre de technologie n'est présente que sur des voitures haut de gamme, pas accessibles au plus grand nombre. Donc la marque qui parviendra à en produire à faible coût pourra rendre ses véhicules bien plus abordables pour le consommateur final. C'est aussi comme ça que les voitures autonomes pourront se démocratiser plus rapidement. Pour y arriver, Stellantis a annoncé hier sa participation à une levée de fonds pour la startup Steerlite. Elle a été fondée en 2022 par des membres du CEA qui travaillaient depuis de longues années sur des capteurs optiques sur silicone. Steerlite développe des capteurs LiDAR moins chers que ce qui se fait actuellement. Et ce, sans que les performances diminuent. La plupart des LiDAR actuels utilisent une technologie à base de miroirs, complexe et coûteuse. La jeune pousse tricolore, elle, n'utilise ni pièces mécaniques ni lentilles. Vincent Abadi, chargé de la conduite autonome chez Stellantis, a affirmé que, ouvrez les guillemets, « grâce à la technologie développée par Steerlite, nous nous attendons à ce que le coût d'un capteur laser suive le même chemin que celui des radars ». En 2010, un radar coûtait 1 000 $ pièce, contre quelques douzaines de dollars aujourd'hui. Fin de citation. Mais il faudra encore quelques années. Steerlite a besoin de 2 à 3 ans pour développer sa technologie, puis 12 à 18 mois pour l'adapter à Stellantis. Reste que pour ses futurs lidars, le groupe automobile parie sur une société française. Mais est-ce que ce sera payant face à une concurrence toujours plus rude ? Le géant américain Intel travaille aussi sur des capteurs sur silicone et la Chine n'est pas en reste. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Et puis on se retrouve dès demain, même heure, même plateforme.